Le débat du jour. Adrien Delgrange.
Bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète. Bonne arrivée, installez-vous, c'est le débat du jour.
RFI.
Au programme ce soir, un petit mot qui fait grand bruit. Trois lettres qui en disent long sur l'évolution de la société. Il est arrivé sans crier gare et provoque depuis un débat, voire la polémique. YEL, I-E-L, contraction de « il » et de « elle ». C'est un pronom personnel, sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre. Je viens de vous lire la définition de « YEL », ajoutée très récemment par le dictionnaire Le Petit Robert. À titre d'exemple, on pourrait dire ce soir « YEL sont arrivés en studio pour vous parler, nos invités, ou encore « YEL sont aussi au téléphone pour argumenter ». Quelle est l'origine de ce mot ? Son utilisation a-t-elle un sens politique, c'est le débat du jour.
RFI.
Avec quatre invités ce soir, Julie Neveu, maîtresse de conférences en linguistique à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, dramaturge, autrice du livre « Je parle comme je suis » aux éditions Grasset. Au téléphone avec nous, Anna Beyer, professeure de linguistique à l'Université de Paris, co-directrice de l'ouvrage « La grande grammaire du français » chez Actes Sud. En studio ici avec nous, Jean Pruvot, lexicologue, historien de la langue française, auteur de l'ouvrage « Les dictionnaires français, outils d'une langue » et d'une culture aux éditions Ofris et qui vient d'être réédité. Puis au téléphone avec nous à Bruxelles, Mathieu Avanzi, maître de conférences et chercheur en linguistique à la Sorbonne. Bonsoir à tous les quatre, soyez les bienvenus et merci d'avoir répondu présent. Première question avec vous, Julie Neveu, tout simplement nous dire d'où vient ce mot, quelle est son origine, YEL?
Alors, comme vous l'avez très bien dit, c'est un mot valise, un pronom valise, c'est-à-dire qui contracte il et elle, et c'est une proposition en fait qui émane de certains groupes de personnes. On a pu l'entendre, le voir au Canada, en Belgique, en France également, et donc des groupes de personnes qui trouvaient que les pronoms personnels il et elle, donc la distinction masculin-féminin, ne suffisait pas pour exprimer leur différence, leur identité différente, et qui ont proposé donc de contracter il et elle afin de dire YEL, qui permettait à la fois de ne pas dire le genre, comme vous l'avez fait, en disant YEL sont arrivés, on ne savait pas s'il y avait des hommes ou des femmes qui étaient arrivés dans le studio, ou bien pour dire des personnes non-binaires qui ne se reconnaissent ni donc dans le genre masculin ni dans le genre féminin. Et aujourd'hui, il y a vraiment quatre endroits où on voit le pronom YEL, où il est entré. Donc il y a le Wiktionnaire, il y a le Dictionnaire des francophones qui mentionne aussi cet emploi, il y a la Grande Grammaire du français, dont Anna Beyer a co-dirigé l'ouvrage, et il y a le Robert.com. Vous avez dit le Petit Robert en introduisant le débat, mais
oui,
c'est le Robert.com, la version
uniquement sur Internet. Quand vous dites des groupes de personnes l'ont utilisé.
Oui, c'est-à-dire que c'est plutôt la communauté LGBT, mais je crois que c'est aussi certaines personnes transgenres, c'est aussi tout simplement des personnes qui ont pensé nécessaire d'exprimer une catégorie qui ne soit pas celle qui fasse la différence entre donc, les hommes et les femmes, mais qui soit une catégorie autre.
Mathieu Avanzi, sur les origines du mot, vous voulez réagir ?
Disons, oui, c'est exactement ce que vient de dire ma collègue. Hein. C'est une contraction entre « il » et « elle ». Et l'origine, en tout cas, la date exacte est très difficile à traquer. Ce qu'on a pu observer, c'est que c'est un mot dont les recherches ont pris de l'importance en 2019-2020, quand il y a eu différents événements sociétaux, sociaux, qui nous ont, enfin, où des personnes non-binaires sont sorties, notamment à la télé. Puis ça suit, je crois, l'intronisation de « they » dans l'Oxford Dictionary en 2019.
Alors, est-il utilisé seulement en France, dans l'espace francophone ? 300 millions de locuteurs sont concernés. Anna Beyer.
La première fois que j'en ai entendu parler, c'était à Bruxelles, justement, le milieu des drag queens. Ça m'avait été signalé en 2008. À l'époque, je m'occupais déjà de la grande grammaire du français. Je m'étais posé la question, est-ce qu'on doit l'ajouter à notre vaste répertoire des pronoms personnels ? Et nous avions dit non. Et puis 10 ans après, on a reconsidéré notre position. Donc on l'a fait entrer dans la grande grammaire du français, mais en retrait, avec des variantes comme j'y fais pour je le fais. Il n'est pas, c'est pas un pronom personnel qui est utilisé comme les autres. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a fait entrer ? Parce qu'il était dans des romans édités, publiés, comme Les Furtifs d'Alain Damasio, et il était sur les réseaux sociaux. Donc c'est quand même des millions d'utilisateurs de Twitter ou d'Instagram qui le voit forcément un jour ou l'autre.
Justement, quand vous dites sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on l'emploie davantage à l'écrit qu'à l'oral ?
Moi, je l'ai vu qu'à l'écrit, mais en même temps, ça dépend des groupes de personnes que vous connaissez. Il est sur les, il fait partie des consignes de Twitter en français, des consignes dont Yael est membre. Vous risquez de le lire, voilà, si vous êtes sur les réseaux sociaux.
Moi, c'est aussi à l'oral, donc je l'entends, puisque j'ai des étudiants qui me demandent chaque année un peu plus souvent de me référer à eux en disant Yael.
Qui vous formule réellement cette demande et que, et que vous respectez.
Bien sûr, oui.
Alors, vous l'employez, vous, Jean Pruvot, le mot Yael ?
Pour te dire, je ne l'avais jamais rencontré. Mes étudiants ne me l'ont jamais demandé, et dans la rue ou ailleurs. Donc, je l'ai découvert ces jours-ci. Donc, je pense quand même que c'est un mot d'une fréquence très rare. Ça pose un peu le problème des dictionnaires, d'une certaine manière. Il y a d'un côté le phénomène, Yael, il existe maintenant, évidemment. Puis de l'autre côté, son introduction dans un dictionnaire.
En ce sens, vous remettant en cause le fait que le petit Robert, en ligne, le propose ?
Bah, écoutez, je pense qu'il y a d'abord une distinction entre un dictionnaire de langue, qui est un guide général, ce qui est le cas du petit Robert, c'est le cas du petit Larousse, c'est le cas du dictionnaire de l'Académie, qui est autour de 60 000 mots à peu près, y compris le dictionnaire de l'Académie, qui est presque fini. Et puis de l'autre côté, un dictionnaire encyclopédique, qui peut évoquer des aspects encyclopédiques de la chose, et une encyclopédie, où il peut y avoir un débat. Et puis après, il y a la revue de spécialistes. Et je pense que dans la grande grammaire, Yael a tout à fait sa place, il s'agit de le discuter. Après, quand il s'agit de l'inscription dans un dictionnaire qui fait en moyenne 60 000 mots, tout est fondé sur la fréquence. Alors, est-ce que la fréquence de Yael, on va me répondre ici oui, moi j'en suis pas du tout convaincu, est-ce que la fréquence de Yael est telle qu'il est dans les 60 000 premiers mots? Je ne le crois pas. Bon,
Il fait aujourd'hui partie de la langue française qui est par définition vivante.
Et c'est en ce sens qu'il y a des dictionnaires comme par exemple le Hachette, qui a un sas dans lequel il met les mots qui sont en train d'apparaître, mais on ne sait pas s'ils doivent encore entrer dans leur nomenclature. Là, à mon avis, c'est là sa place. C'est dans des revues. Mais ce n'est pas encore dans un dictionnaire, d'autant plus qu'on n'a pas sa grammaire. Vous venez de dire « Yael sont arrivés », mais quand je demande comment on écrit « et », on ne sait pas si c'est « es » ou « es ».
Merci pour la transition.
Non, mais par rapport aux fréquences d'usage, je suis complètement d'accord que l'usage est rare, et d'ailleurs l'entrée le dit hein, dans le robert.com. Après, il y a quand même des mots qui sont dans les Robert, même les versions en ligne, même les versions les plus généralistes, qui sont très peu utilisées. Donc il y a des régionalismes, il y a des mots qui ne sont plus guère utilisés comme pogne, il y a satrape, enfin des mots que les gens ne connaissent pas. C'est-à-dire que...
Ah si, satrape, on ne le connaît pas forcément, mais on connaît plus satrape que Yael quand même.
Oui, je ne sais pas, il faut voir.
D'un point de vue pratique, Mathieu Avanzi, justement, Jean Pruvot nous tendait la perche, si j'ose dire. Comment est-ce qu'on accorde « Yael sont au téléphone » ou « Yael sont arrivés » et « es » et « es » ?
Ou « Yael sont fous de musique », par exemple. Fous.
Oui, c'est très difficile. Hein. À l'écrit, on peut trouver tout un tas de trucages, et c'est ce que le point médian permet de faire. Ou d'autres variantes, les parenthèses, les crochets, je ne sais quoi. À l'oral, c'est beaucoup plus compliqué, notamment sur des régions où on accorde encore les participes passés qui terminent par des voyelles avec des allongements, comme en Suisse ou en Belgique, ou dans d'autres régions de la francophonie où on a maintenu ce trait un peu archaïque. Et puis, ça s'entend d'autant plus, hein, comme le dit Jean Pruvot, sur des mots comme fou ou comme beau, où on a des féminins qui sont tout à fait différents des formes masculines. Et alors là, auquel cas, il faudrait essayer de trouver un neutre et faire entrer une troisième forme de flexion dans la langue, ce qui rend encore la survie ou en tout cas l'introduction du phénomène dans la langue difficile.
Mais est-ce un ballon d'essai là, la sortie du mot Yael par le petit Robert ?
Je pourrais dire quelque chose sur l'accord si vous voulez.
Oui, allez-y.
Allez-y.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Mathieu parce qu'à l'oral, le français a perdu la plupart des marques d'accord en genre. Donc 99% des participes passés, on n'entend pas. C'est Yael sont venus, Yael sont arrivés. On n'entend pas la différence.
Ah oui, mais pas sur des mots comme beau ou fou. Conjuguez-moi beau et fou. Fléchissez-les, là vous avez du mal.
Donc 99% des participes. Pour les adjectifs, c'est 66%. Yael sont jolies, Yael sont aimables. À l'oral,
non mais comment vous l'écrivez ? Comment vous l'écrivez ?
Je parlais de l'oral. À l'oral, 66, c'est assez facile, si l'on peut dire, parce que on n'entend pas la marque de genre. À l'écrit, c'est 40% des adjectifs. Donc moi, j'ai vu Yel. Yel était disponible, Yel était aimable, Yel était...
Ah oui, mais parce que vous prenez des exemples qui, évidemment, ne posent pas de problème.
Moi, c'est ça que j'ai lu. Voilà, je n'ai pas fait d'études systématiques. Donc la langue française permet quand même d'éviter l'accord en genre, ou a perdu la marque d'accord en genre pour pas mal d'adjectifs et pour la plupart des parties passées à l'oral, puisque Mathieu disait qu'il y avait un problème à l'oral.
Anna Beillet, professeure de linguistique. La parole à vous, Julie Neveu.
Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec Anna Beillet. Et surtout, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à se coincer les uns les autres, à dire « Ah, mais vous voyez, on n'y arrive pas ». Ce n'est pas ça le problème. Il est clair que l'usage étant récent, oui, il y a des cas où on ne sait pas encore. Et puis, surtout... Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose de très simple. Est-ce que le fait que le mot soit entré dans le dictionnaire veut dire qu'il faut l'utiliser ? Enfin, parce qu'il y a quand même cette panique incroyable, cette menace ressentie par la plupart des gens. Et donc, pas du tout, du tout, du tout. Je ne sais pas combien de pourcentage, proportion des mots du dictionnaire on utilise. Donc. Mais non, c'est une proposition qui a été consignée, qui est maintenant visible. Il se trouve que... C'est vrai que c'est peut-être un peu tôt, je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts par rapport à des usages ensuite, par rapport à des régionalismes qui sont peu employés et qui sont quand même représentés dans Robert. Et enfin, une fois de plus, pourquoi on regarde quelque chose dans un dictionnaire sinon pour en avoir la définition, parce qu'on le connaît pas.
Oui. Donc, il y a une utilité et en ce sens, ce n'est pas le dictionnaire qui fait foi sur un mot.
Exact. C'est-à-dire, il donne une définition, il explique à ceux qui savent pas ce que ça veut dire, ce que ça veut dire.
Oui. Alors là encore, il y a une rupture avec la tradition du petit Robert. Et celle qu'avait instaurée et Paul Robert et Alain Rey. Normalement, quand on donne surtout un pronom personnel, on ajoute derrière un exemple ou une citation d'écrivain. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout parce que c'est très compliqué. On vient de le voir. Elles sont fous, elles sont folles. Ça n'est pas fixé encore. Alors c'est là où je reviens à mon idée. On est bien au-delà des 60 000 mots d'un dictionnaire général, qui est un guide. On est dans un dictionnaire de spécialistes, de spécialités, comme on le dit. Soit encore dans une revue. Donc c'est là où il y a quand même une difficulté. Bon, j'ajouterais que quand on introduit elles, on introduit aussi quelque chose qui est très discuté. Alors Alain Rey disait que c'était une complication ridicule, inutile, sur un système qui est déjà, pour des raisons historiques, terriblement compliqué. Il parlait de l'écriture inclusive. Alors j'entends dire ça et là, Alain Rey se réjouirait. Tout le monde dit l'inverse. Alain Rey ne cesse, en 2017, on est là, si vous voulez, en novembre 2017, hélas quelques moments avant qu'il nous quitte, et il attaquait cette écriture comme très différente, finalement, entre l'écrit et l'oral, bégayante quand on l'apprend, avec une série de points. Alors moi, je ne suis pas là pour discuter de ça, mais je dis que c'est trop tôt pour mettre ça dans un dictionnaire, que ça n'a sa place que dans un SAS, comme chez Hachette, ou que dans un dictionnaire de spécialité, fondé sur une idéologie, ou bien dans une revue. Si on n'est pas capable de donner un exemple ou une citation à un mot, il faut peut-être éviter de le mettre.
Anna Beillet.
Oui, nous avons donné. Enfin, il y a deux exemples dans notre ouvrage, au milieu de 30 000 exemples. Donc, c'est vraiment un point très marginal et on le note comme marginal avec un signe qui veut dire ça. Mais donc, c'est Yel se sentait vide. Donc, ça illustre le fait que on n'est pas obligé d'accorder. Et puis, il y a un exemple au pluriel qui est intéressant, c'est Yel se retrouvait tous les deux. Donc, on a l'impression que c'est un couple mixte et qu'il y a quand même une forme d'accord au masculin.
Vous écoutez Radio France Internationale, c'est le débat du jour.
Le débat du jour.
Nous nous intéressons à ce pronom IEL, YEL. Le gouvernement français s'est aussi emparé du sujet puisque l'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française, a déclaré le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, contredit par Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la diversité. C'est un progrès, dit-elle, pour les personnes qui ont envie de se reconnaître dans ce pronom et je ne vois pas ce que ça enlève à ceux qui n'ont pas envie de l'utiliser. Même la première dame, Brigitte Macron, a ajouté son grain de sel au débat, jugeant que deux pronoms IEL étaient suffisants. Et puis un dernier mot, l'éditeur lui-même, lui, défend sa mission d'observer l'évolution d'une langue française en mouvement. Une polémique qui a raison d'être ou pas, Julie Neveu?
Écoutez, là, moi, vraiment, mais je pense qu'on sera tous d'accord. Enfin, je vais laisser les autres s'exprimer, mais je suis stupéfaite et un peu inquiète de la récupération politique de ce débat, dont il est normal qu'il ait lieu entre les linguistes, entre les locuteurs d'une langue. Mais que les politiques, là, s'amusent à le polariser, à l'hystériser, ça me déplaît fortement. Surtout que, et puis ça m'agace comment le gouvernement, à chaque fois, dit l'écriture inclusive, alors qu'il ne parle que du point médian, qui est une seule des multiples propositions d'écriture inclusive, et qu'en même temps, il continue à dire françaises et français, et les femmes et les hommes, qui est une autre forme du langage inclusif. Donc c'est absurde, il faut qu'il arrête de dire écriture inclusive, il dit point médian s'il ne veut pas le point médian. Donc voilà, donc oui, je suis un peu fâchée contre la façon dont les politiques ont corsé le débat.
Mathieu Avanzi, c'est du militantisme ou pas l'utilisation de YEL?
Mais disons, là, comme l'a dit la collègue, c'est effectivement désespérant que des questions linguistiques soient récupérées d'un point de vue politique, et surtout dans un contexte où ce qui n'est pas gauche est droite, et puis ce qui n'est pas, ce qui est à gauche est extrême gauche forcément, ou extrême droite, et on n'a plus vraiment de débat, et donc on n'arrive plus à
Qu'est-ce
avoir
que vous voulez dire juste par là pour comprendre? Si on l'utilise, on est de gauche, et si on le critique, on est de droite?
Je trouve que c'est carrément problématique, justement, de dire qu'on est de gauche ou de droite en fonction de ce qu'on utilise, écriture inclusive, ou YEL, ou etc. Et l'erreur qu'a commise le Robert ici, c'est de sortir, mais je pense que ce n'était pas du tout prévu, de sortir ce mot et de du coup se ranger finalement dans un moment où, à la veille des élections, tout est repris, tout est réinterprété, et puis on voit finalement qu'on mélange un peu tout, islamo-gauchisme, wokisme, écriture inclusive, comme l'a dit la collègue, donc c'est vraiment problématique qu'on arrive à politiser comme ça et à polariser, notamment les réseaux sociaux font très bien ça, quoi.
Est-ce l'illustration d'une certaine forme de peur du changement, Jean Pruvot?
Non, moi je ne le crois pas du tout. Moi, je pense que c'est quand même une très belle opération de com, comme on dit, ou de publicité, puisque d'un seul coup on parle du petit Robert.
Mais c'est dangereux. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Et d'ailleurs, je pense que c'est le Larousse qui est en train de récupérer des. Ouais, pardon, mais c'est Larousse qui est en train de récupérer des acheteurs, parce que les gens appellent le Robert pour dire je jette mon Robert à la poubelle.
C'est ce que je voulais dire. C'est que quand. En définitive, on ne suit pas ce que les pères fondateurs, Alain Rey, mettaient en place, c'est-à-dire une certaine prudence. Et Dieu sait qu'il était très progressiste et très féministe, comme je me ressens profondément féministe et évidemment luttant contre les différences. Eh bien, si on rompt ce contrat, en quelque sorte, avec les lecteurs, on se retrouve avec des critiques sur la petite Roberte qui sont indécents, la petite Jacqueline, etc. Jamais Alain Rey n'aurait pu bénéficier ou pâtir de ce genre de publicité. Ça veut bien dire qu'il y a un peuple en colère, qu'il y a des gens qui ne sont pas contents.
Vous pensez que c'est le révélateur d'un peuple en colère?
Ben, à mon avis, ils disent ce que je dis de manière un peu peut-être savante et pédante. Ça n'était pas la place du petit Robert, ça n'était pas mûr, ça devait être ailleurs, ça devait être en discussion et c'était trop tôt pour le faire. Sans citation, on voit bien qu'ici on n'est jamais d'accord sur la manière dont on doit fléchir beau, belle, elles sont beaux, elles sont belles. Et moi je veux respecter ces gens-là. Alors je rajouterai autre chose, c'est que YEL ne me plaît pas parce que c'est François, c'est Françoise, Dominique ou Jackie. On choisit son prénom. J'ai des amis qui sont transgenres. Ils sont pas très contents de s'entendre parler YEL.
Ah bah alors justement là-dessus.
C'est l'autre. YEL, c'est l'autre. Quand on dit YEL, ça veut dire qu'il est pas là ou qu'elle est pas là ou que
les personnes transgenres que vous avez sûrement rencontrées.
On va nous dire évidemment qu'ils sont ravis, mais moi j'en connais beaucoup qui sont pas ravis du tout de cette publicité.
Est-ce que je peux parler de Dominique?
Allez-y, Anna Beillet, et après Julie Neveu.
Parce que Dominique, c'est un bon exemple du fait que beaucoup de prénoms sont épicènes, enfin valent pour le masculin et le féminin. Et je voudrais aussi ajouter, à l'oral, il y en a beaucoup plus à l'oral, et je voudrais ajouter que les pronoms dans le système des pronoms français, je, tu, vous, nous, même on, si on veut, sont compatibles avec les deux genres. C'est je suis content, je suis contente, nous sommes contentes, vous êtes contents. La plupart des pronoms personnels sont compatibles avec les deux genres. Donc, il, elle est un peu exceptionnel de ce point de vue. D'autres langues, par exemple l'espagnol et le suédois, inventent un pronom pour désigner les humains qui n'est pas le neutre, puisque le neutre c'est pour désigner les choses, mais un pronom personnel qui vaut pour les deux genres. Donc, en Suède, c'est passé relativement facilement. Ça a été inventé par une romancière dans les années 60 et puis il est entré tranquillement dans les dictionnaires officiels, dans l'académie. Et il sert à pour les offres d'emploi, par exemple, il veut dire il ou elle. Donc voilà, il est passé.
Alors, très rapidement et après, Julie Neveu.
Je vais vous embêter.
Le V singulier en anglais, c'est une autre histoire, puisque oui. Le V singulier qui joue le même rôle existait chez Shakespeare. Il est très ancien. Il a été condamné par les puristes pendant des siècles qui voulaient qu'on utilise I générique. Et maintenant, il est relativement bien accepté.
On va faire tourner
donc
la parole à Anna
Béillet,
si vous permettez.
On verra l'avenir de Yale. Voilà.
Oui, alors je vais vous embêter sur le mot humain. J'entends dire que c'est un véritable progrès pour les féministes. Je suis féministe, je le répète. Que le cheveu ne soit plus un poil sur le crâne des hommes, mais un poil sur le crâne des humains. La belle affaire. Et les humaines, alors? Bon, on se pose des questions, on se dit parfois, mais c'est aberrant de dire des choses pareilles.
Julie Neveu.
Oui, alors moi, je voudrais revenir, pardon, un tout petit peu en arrière, parce que je trouve ça quand même franchement assez exagéré de dire, en fait, on fait parler les morts, c'est-à-dire que vous dites, oh ben l'arrêt, on va trouver ça horrible,
non,
et
non,
moi
non,
aussi,
non.
J'ai dit qu'il se réjouirait, je le sais que vous pensiez à ma tribune dans Libé, j'ai dit qu'il pouvait se réjouir.
On ne va pas aller saccager 1000 ans d'histoire au nom de
D'accord.
quelques années de réflexion
non,
idéologique
attendez,
par un usage imposé
aussi,
par une toute petite minorité.
J'ai regardé aussi. Et là, on parle, c'est clair que sur le point médian, il avait des réserves. En revanche, c'est lui qui a été là quand, justement, ce que vous venez de vous moquer, le fait qu'on dit le poil sur la tête des humains, on dit à la place de la mémoire des hommes, eh bien, toute l'équipe du Robert, avec Alain Rey, a corrigé pour faire entrer un langage plus inclusif en disant la
mais
mémoire
humain,
collective.
Mais c'est plus inclusif, humain et humaine.
Mais arrêtez enfin des êtres humains, en ce sens-là. Les hommes et les femmes, bien sûr. Avant, c'était les grands hommes. Voyez, et maintenant,
alors,
on a remplacé...
Alors, mettons pas les humains, mettons des êtres humains, là, je serais d'accord.
Oui, bah, c'est dans ce sens, bien sûr. Les droits humains au Canada, les droits humains, pour dire les droits de l'homme, c'est ce qu'on dit au Canada
oui,
depuis très longtemps.
En adjectif,
bref. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'Alain Rey,
il ne faut pas qu'on lui fasse bref,
dire...
C'est sérieux.
Hein. Voilà, Alain Rey était très fier que son dictionnaire renouvelle tous ces termes qui étaient trop marqués du côté masculin pour qu'on fasse entrer des termes plus inclusifs.
Et
donc,
il avait raison pour ça.
Voilà.
Mathieu Avanzi à Bruxelles, vous vouliez réagir ?
Non, j'écoute. Enfin, je suis fasciné par le débat. C'est vrai qu'il est également enflammé entre nous, les linguistes.
Mais en toute amitié.
Même pas d'accord. donc c'est très intéressant en tout cas, mais effectivement la question de est-ce qu'il faut féminiser la langue, comment les dictionnaires doivent suivre, reste très problématique et c'est très difficile.
Ça reste un progrès pour vous en quelques mots, ça reste un progrès la langue inclusive?
Je suis pas sûr que ça reste un progrès. En tout cas, je crois que c'est quelque chose qu'il faut discuter. Il faut discuter, comme on le disait tout à l'heure, de qu'est-ce qu'on met derrière l'étiquette d'écriture inclusive, quelles sont les procédures, et vraiment réfléchir à pas complexifier la langue, quoi.
L'avenir également du mot Yale, est-ce que finalement, je pense aussi à tous nos auditeurs en ce moment là, qui nous écoutent et qui parlent cette même langue qui nous rassemble, le dernier mot, ce sera ni le dictionnaire, ni l'Académie française.
C'est le peuple. La grammaire.
Ah bah bien sûr, c'est l'usage. C'est ce que les gens vont s'amuser à le dire. Est-ce que ça va leur paraître approprié dans certains contextes? Moi, j'aime bien l'emploi que vous avez fait. Et elles sont arrivées, en fait. C'est
oui,
vrai, bah c'est un emploi.
Parce que on n'a pas à l'orthographier ni à prononcer.
Oui, mais j'aime bien. Moi, j'adore. Moi, j'ai souvent pas envie qu'on dise que je suis
non,
une femme.
Non, mais la langue n'est non, pas le fait d'adorer donc, ou pas. C'est on en a besoin.
Écoute,
si je veux dire.
Oui,
fou,
et bien moi, j'écris
beau,
souvent.
Yale sont
moi,
beaux, qu'est-ce que vous dites?
Quand je parle à mes étudiants, souvent, j'imagine des scénarios. Je dis, ok, imaginez, vous êtes en couple. Imaginez que votre partenaire vous appelle. Et là. Yel vous annonce, j'ai gagné au loto. Eh bien, c'est parfait. Avant, je disais il ou elle. Eh bien, là, Yel, c'est pratique. Je ne dis pas, je ne spécifie pas, tiens, vous êtes avec un homme ou une femme. Je dis, je garde tous les possibles ouverts.
Oui, de toute façon, on oublie aussi que dans la langue, il y a ce qu'on appelle les séries ouvertes, le lexique. Là, on peut inventer des millions de mots. Et il en faut pour le féminisme, le féminin des noms de métiers, c'est très bien. Et puis, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les listes fermées. Les séries fermées, c'est un nom. Linguistique, c'est je, tu, il, nous, vous, il, elle, etc. Au long de l'histoire, on n'a jamais réussi à ce qu'un idéologue ou un grammairien en invente. C'est le peuple qui le fait. C'est la population. C'est pour ça que toute la francophonie réunie, si dans 10 ans, beaucoup de gens disent Yel, dans toute la francophonie,
vous changerez
il faudra
discours.
Le mettre. Bah, bien sûr, il faudra le mettre. Il faudra le mettre. Mais pour le moment, rien n'est mûr. Et par conséquent, c'est vraiment une sorte. C'est une manière de nous forcer la main sur l'écriture inclusive. Et je trouve que ça n'est pas très. Honnête, et c'est pour
Anna
ça qu'il y a tant de critiques.
On vous force la main sur l'écriture inclusive ?
Non, je ne vois pas en quoi le fait qu'un mot soit dans le dictionnaire forcerait non, qu'il se
pronom.
Soit utilisé.
Un pronom.
Bah, même un pronom, enfin, il y a plein de,
bah,
y a plein de
chose,
mots dans le dictionnaire
fermée.
Qu'on n'utilise pas, oui.
Ah ben bah non, mais une série fermée, ce n'est pas tout à fait la même chose. Tout le monde connaît « je, tu, il »,« nous, vous, il ». S'attrape, ce n'est pas sûr. mais yel, personne pour le moment. Donc, mais c'est un pronom personnel qui force à avoir l'écriture inclusive derrière. Et c'est pour
mais
ça
qu'est-ce qui vous
que
force,
le petit Robert.
Personne
mais parce
force.
Que vous ne pouvez pas donner yel dans un dictionnaire sans donner des exemples. Alors pourquoi n'ont-ils pas mis d'exemple? Parce que c'est compliqué, parce que je
le
répète.
Il y a des exemples dans le dictionnaire des francophones. Il y a des exemples.
Dans un dictionnaire comme celui-ci. C'est dommage de.
Pourquoi pas? C'est privé, un dictionnaire.
Ah, bah alors, si on peut mettre des mots qui sont au-delà des 60 000 mots, on peut mettre 100 000 mots. Je vais vous inventer, moi, des pronoms personnels sur jeu. Parce que le jeu, c'est important. Si je me sens transgenre, et peut-être, à ce moment-là, ce jeu me gêne. J'aimerais bien avoir quelque chose qui corresponde.
Pourquoi
à ce moment-là, je vais militer dans une idéologie et je vais réussir.
Parlez pas tout simplement. Anna Béhier.
Je répète que je, comme les autres pronoms personnels, sauf il ou elle, n'est pas marqué par le genre.
Ben oui, mais c'est peut-être
donc
un problème.
Donc je vois pas en quoi
pourquoi
je
ne pas l'inventer.
Vous caricaturez en fait. C'est
non,
ça qui est dommage de se moquer de ceux qui ont besoin. Ben si.
Je me moque pas.
Enfin, ce que disait le Robert, c'était que
je veux qu'on en discute avant de l'installer dans un dictionnaire. C'est pas pareil.
Parce qu'il le lisait. Voilà, c'était pas que les gens voulaient l'employer, c'est que les gens le cherchaient dans le dictionnaire en ligne et ne le trouvaient pas parce qu'ils le rencontraient.
Et au moins, ça aura aussi eu, ça nous permettra en tout cas de l'utiliser là ce soir, le mot yel, Mathieu.
Ah ben on est en train de le lancer en fait. C'est pour ça que.
Mathieu Avanzi, l'avenir du mot, je voulais juste vous faire réagir aussi sur la Covid que l'Académie française avait proposée. On voit que finalement, c'est le Covid qui aujourd'hui l'emporte.
Bah,
Mathieu
Avanzi.
Oui, sur le Covid.
Dans l'avenir, oui. En tout cas, l'avenir de Yel est de montrer que parfois, ils ont une date de péremption, en fait, tous ces mots.
Disons, là, ce qui est super intéressant, c'est que le Robert a jeté en lumière, enfin, a jeté en pâture ce Yel et a vraiment jeté une lumière. Et là, je crois que toute la francophonie entière est en train de réagir sur ce Yel et son destin vient d'être bouleversé. Donc, il y a des chances qui subsistent, comme c'est le cas de Chocolatine ou la Covid, comme un vieux débat de société. Maintenant, à voir est-ce qu'il arrive à s'intégrer dans la langue, justement, avec les problèmes qu'on a soulevés autour de la flexion derrière. Donc, c'est un vrai enjeu pour ce pronom de survivre. À mon avis, les chances qu'ils survivent sont relativement minces. Maintenant, on ne peut pas lire dans une boule de cristal pour savoir l'avenir de la langue.
Hein. Julie Neveu.
Mais je dirais plutôt mince.
Oui, je pense que personne d'entre nous peut le dire, c'est sûr. Pour le ou la Covid, c'était très intéressant parce que ça prouvait bien qu'en effet, ce n'était pas une institution qui pouvait décider d'un emploi. Puisque l'Académie française a proclamé beaucoup trop tard, ça faisait deux mois qu'on disait tous le Covid spontanément. Et elle a dit, ah mais non, il faut dire là en vertu d'une règle.
Elle
n'a
pas dit ça.
Moins. Si, elle a dit ça.
Ah non, mais je vais rectifier. Ouais. Hein. Elle a dit
le
Québec dit la Covid. C'est pour ça qu'ils ont été. On a demandé à l'Académie ce qu'elle pensait du Covid. Elle l'a donné. Et elle a dit au Québec, en gros, on dit la Covid. La Covid serait plutôt la maladie et le Covid plutôt le virus. Mais elle ne s'est pas prononcée. Elle a juste donné un point de vue. Et là-dessus, alors chacun y va. Et moi, je m'en moque complètement. Aujourd'hui, c'est épicène. C'est-à-dire aussi bien le Covid que la Covid. Moi, je dis la Covid. Bon, alors, c'est pas par conservatisme. C'est parce que, bon, je suis ami des Québécois. Les Québécois disent la Covid. C'est les premiers qui m'ont écrit pour me dire « Mais comment ça se fait que vous dites le Covid ?» Ah ben, je dis « je sais pas, en fait. » Bon, voilà.
Un dernier mot de conclusion, juste avant de refermer.
Ah, écoutez,
ce sera avec
moi,
vous,
je pense
Neveu.
Qu'il y a quand même de la peur du changement dans tout ça et une crainte de perdre un petit peu de pouvoir et de maîtrise et d'être bousculé, ce qui n'est jamais agréable en quoi que ce soit.
Anna Béhier, un dernier mot de conclusion.
J'espère que malgré le Covid, on pourra prendre un avion, comme disent les Québécois.
Et vous, votre proposition pour la langue française, Mathieu Avanzi?
Disons que voilà, je pense qu'il faut laisser les locuteurs faire ce qu'ils ont envie de faire et continuer de débattre, parce que c'est toujours très intéressant.
Et puis c'est merveilleux de pouvoir discuter d'un mot et de rester amis. Hein.
C'est la fin de cette émission. Merci à tous les quatre. Anna Béhier, professeure de linguistique à l'Université de Paris, co-directrice de l'ouvrage La grande grammaire du français chez Actes Sud. Julie Neveu, maîtresse de conférences en linguistique à la faculté des lettres de Sorbonne Université. Vous êtes autrice du livre « Je parle comme je suis » aux éditions Grasset. Merci également à vous, Jean Pruvot, lexicologue, historien de la langue française, auteur de l'ouvrage, la réédition de cet ouvrage, Les dictionnaires français, outil d'une langue et d'une culture, qui vient donc d'être réédité. Et puis était également avec nous ce soir Mathieu Avanzi, maître de conférences et chercheur en linguistique à la Sorbonne. Merci également à Jean-Philippe Thury pour la réalisation de cette émission. Rédaction en chef Patrick Adam, coordination Arnold Azewa. Et puis demain, rendez-vous avec moi derrière ce micro. Adrien vous salue bien pour un nouveau débat à suivre dans quelques secondes sur la Radio du Monde, un nouveau journal.
Demain sur RFI.